BW. Vue d'Allemagne.
Quelles sont les limites de la liberté d'expression? Ces jours-ci, on entend des paroles telles que « guerre de race », « national-socialisme maintenant » dans des manifestations dans l'est de l'Allemagne. Jusqu'où les néo-nazis ont-ils voix au chapitre? Des objets d'art africains qui chuchotent leur histoire, ça se passe au musée ethnographique de Leipzig. Une exposition raconte le passé trouble des œuvres issues de la période coloniale. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. À première vue, Köthen est une petite bourgade idyllique. Sur son site web, la ville d'environ 30 000 habitants, située dans la région de Saxe-Anhalt, présente avec fierté son patrimoine culturel et vante notamment le séjour qui a passé le compositeur allemand Johann Sebastian Bach entre 1717 et 1723, Bach dont vous entendez une des célèbres suites pour violoncelle. La mascotte de la ville, Halli, invite les visiteurs à découvrir églises, châteaux et autres sites historiques rénovés depuis la réunification de l'Allemagne. Depuis le 9 septembre, c'est pourtant une autre image de Köthen qui fait la une suite à la mort d'un jeune habitant de 22 ans après une altercation impliquant deux réfugiés afghans. Alors que l'attention médiatique était concentrée sur Chemnitz, autre ville de l'Est où un incident similaire a entraîné des débordements xénophobes, les projecteurs se sont braqués vers Köthen. Des groupes d'extrême droite de la région se sont invités à une manifestation organisée en mémoire du jeune décédé. Et les pittoresques rues de la ville ont résonné aux cris de néo-nazis, clamant leur souhait de voir revenir le national-socialisme maintenant, une séquence filmée et partagée sur les réseaux sociaux par le correspondant du quotidien français Le Monde. Une autre séquence a fait le tour de la toile, un discours du représentant du mouvement islamophobe Pegida en Thuringe, David Kuckert, devant une centaine de personnes manifestement acquises à sa cause. Cet ancien membre du parti d'extrême droite NPD, qui porte un tatouage nazi sur le visage, a déjà été condamné dans le passé pour incitation à la haine. Dans sa tribune, il évoque le risque d'islamisation de l'Allemagne, la disparition de la race blanche dans le monde ou encore dénonce une presse mensongère anti-allemande. Tous les ingrédients du discours de l'extrême droite sont réunis. Et pourtant, David Kuckert a pu parler librement sans être inquiété par la police. La constitution allemande lui assure la liberté d'expression.
Article 5 de la loi fondamentale. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image et de s'informer sans entrave aux sources accessibles au public.
Parallèlement, le code pénal allemand punit de 3 mois à 5 ans de prison toute personne qui, de manière susceptible à troubler l'ordre public,
incite à la haine, à la violence ou à l'arbitraire contre un groupe national, racial, religieux ou ethnique, contre une partie de la population ou contre un individu en raison de son appartenance à un groupe ou à une partie de la population.
Michael Mayer-Resende est spécialiste en droit constitutionnel et président de Democracy Reporting International, une organisation de la société civile qui s'engage pour la défense des valeurs démocratiques. Il explique les difficultés des autorités à réagir dans ce genre de situation.
Le point de départ, c'est la liberté d'expression. Cela signifie que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Alors, attendre des policiers qu'ils comprennent rapidement qu'il s'agit d'un discours haineux et qu'ils prennent d'assaut l'Assemblée, retirent le micro des mains de l'orateur et dispersent la manifestation, c'est trop demandé.
Contrairement à Chemnitz, où elle avait été débordée, la police a été déployée dès le début, en masse et de manière bien visible à Köthen. Les forces de l'ordre ne sont toutefois pas intervenues pour empêcher les paroles extrémistes. Une retenue que Michael Mayer-Resende comprend, sans toutefois l'approuver.
La question se pose de savoir si la police a suffisamment de ressources à sa disposition pour enregistrer les données personnelles de ces personnes, engager une procédure et éventuellement les arrêter directement. À partir du moment où la police sait qui sont ces personnes, elle peut les arrêter même plus tard. La police se trouve prise entre deux feux car les policiers sur place sont aussi là pour garder un œil sur l'ensemble de la manifestation et non pas seulement pour empêcher des délits concrets.
Konkrete Straftaten sofort zu verhindern.
Alors si les responsabilités ne peuvent être établies qu'après coup, les autorités ont besoin de preuves et de témoins. À Chemnitz comme à Köthen, les journalistes ont de plus en plus de mal à faire leur travail correctement. Plusieurs rapportent avoir été pris à partie par des manifestants dont le slogan récurrent est « Lügenpresse », presse mensongère. Mais leurs comptes rendus peuvent fournir des preuves à la police que les discours de haine proférés en pleine rue outrepassent largement la liberté d'expression. On reste en Allemagne pour la deuxième partie de ce magazine, l'Allemagne et son passé colonial. Fin août, une cérémonie a eu lieu à Berlin en présence d'une délégation venue de Namibie, représentant les peuples Herero et Nama. Cérémonie au cours de laquelle la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Michelle Müntefering, a présenté des excuses pour les crimes commis pendant la période coloniale, même si le terme de génocide a soigneusement été évité. À cette occasion, l'Allemagne a remis à la Namibie des ossements dérobés à l'époque par des colons à des fins de recherche ou d'exposition. En mai dernier, la Fédération des musées allemands a par ailleurs publié un guide pour le traitement des œuvres issues du contexte colonial. Des bourses de recherche ont été instaurées. Les mesures visent à inciter les collections allemandes à lever le voile sur l'origine des œuvres qu'elles exposent. À Leipzig, la conservatrice du musée ethnographique Grassi travaille, elle, depuis 3 ans déjà à la refonte de l'exposition de ses collections africaines. Sa nouvelle exposition temporaire Werkstatt Prologue aborde le passé trouble des collections du musée, dont une grande partie résulte de pillages. L'objectif étant de sensibiliser le public. Visite des lieux en compagnie de la spécialiste avec notre correspondante Amy Elio.
Des chuchotements s'échappent des caisses de transport entassées dans le hall du musée Grassi. Dissimulées dans leurs boîtes, des œuvres d'art racontent leur histoire, celle chaotique d'avant leur arrivée dans les collections de Leipzig, un passé trop longtemps oublié, souligne Nanette Schnoop, la conservatrice des lieux.
On a transformé l'objet passif dans un acteur actif. Donc il parle à la première personne et il raconte sa vie. Dans quel contexte il a été fabriqué, comment était son voyage, cette violence aussi en quelque sorte, comment ces objets ont été collectés. La collecte ethnographique était toujours liée à une infrastructure coloniale.
Dans sa nouvelle exposition Werkstatt Prologue, le musée met le doigt sur le passé trouble de ces objets collectés à l'époque coloniale allemande entre 1884 et 1919, une période dont Grassi ne parlait pas lorsque la conservatrice prend la direction de l'institution en 2015.
On rentrait dans le continent africain avec aucune mention sur son histoire, rien bien évidemment sur l'époque coloniale et rien aussi sur le présent. Et j'ai commencé vraiment avec l'Afrique parce que pour moi c'était le plus problématique. Ça a confirmé en fait tous les clichés du continent africain, comme s'il n'y a pas de grande ville, un continent sans histoire, sans écriture.
Grassi est l'une des premières institutions à emboîter le pas aux dénonciations qui s'élèvent aujourd'hui en Allemagne. Universitaires et associations demandent que les collections des musées soient inventoriées et étudiées et que soit levé le voile sur la provenance d'œuvres mal acquises. Des travaux auxquels ne s'est jamais attaqué le pays qui a longtemps tourné le dos à son passé colonial.
L'anonymat est partout, dans nos photographies, dans les objets. Et c'est ça le grand désastre en fait, des musées ethnographiques. On ne sait plus. Et donc maintenant, il y a un travail à faire, retrouver leur biographie. On est des institutions publiques et notre mission est justement aussi de rappeler aux visiteurs qu'est-ce que signifient ces objets ?
Si l'histoire de nombreuses œuvres reste encore fragmentaire et doit faire l'objet de recherches, d'autres sont bien connues, comme celle des bronzes qui ornaient le palais du royaume du Bénin, dans le sud-ouest de l'actuel Nigeria. Pillés en 1897 lors d'une expédition punitive des troupes britanniques, des centaines sont aujourd'hui conservées en Allemagne, dont plus de 220 en Saxe. L'exposition met en scène un face-à-face entre les objets volés, issus des réserves du musée, et le public, et suscite le débat sur leur présence en Europe.
La collection de Leipzig est ici vraiment de A à Z. Pas un seul objet a été oublié, mais qu'est-ce que ça représente pour le Nigeria aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a ici des interviews avec des Nigérians. La plupart des gens disent quand même, ils se posent la question, mais pourquoi tout se trouve en Europe et nous, on n'a quasiment rien. Du coup, aussi, le public comprend, hey, ce que je vois ici comme magnifique bronze, ben, il y a des gens au Nigeria, à Benin City, qui savent très bien, et ça, pour eux, ça a une autre valeur, parce que c'est leur histoire.
En filigrane de l'exposition court l'épineuse question de la restitution des œuvres, une problématique ravivée par le président français Emmanuel Macron en décembre dernier. Dans son discours à Ouagadougou, il a annoncé vouloir rapatrier des objets volés sur le continent africain d'ici 5 ans, alors que du côté allemand, aucun engagement politique n'a été pris. Nanette Schnoop affirme que les collections allemandes doivent aujourd'hui être repensées.
Je crois qu'il faut donc penser même encore au-delà de la restitution et dire qu'il y a un patrimoine universel qui doit beaucoup plus circuler.
En attendant que l'Allemagne s'engage davantage dans le débat, la directrice du musée prévoit d'intensifier ses collaborations avec le continent africain. Le musée Grassi inaugure en novembre prochain une exposition sur les cultures urbaines à Kinshasa et donne carte blanche aux artistes de la ville. De quoi offrir un discours différent de celui qu'a longtemps tenu le musée sur l'Afrique. Emilio à Leipzig pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. Vous retrouvez tous les numéros dans la médiathèque, une seule adresse, dw.com/français. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotatalon qui sera à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss. Mother Africa, tell me what happened to your sacred stone. We are not living right, pretending to be happy when we're all alone. Don't care about no one, it's me, my cash, my car, and my cellular phone.